Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de l'interview. Je suis ravi de vous retrouver avec cette semaine comme invité Florian Philippot. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes aujourd'hui député européen et président des Patriotes, mais c'est au Front National que vous avez fait vos armes en politique. Vous avez été durant plusieurs années le numéro 2 du parti, le bras droit de Marine Le Pen, au cœur de la stratégie de dédiabolisation du Front National, avant d'en claquer la porte fin août. Florian Philippot, quel regard portez-vous sur votre parcours et votre action au sein du Front National?
Bah, si vous voulez, moi j'étais arrivé au Front National quand le Front National avait déjà 40 ans d'existence. J'étais très séduit par la perspective d'une professionnalisation, d'une ouverture, d'une dédiabolisation, comme vous l'avez dit. Et on a fait, je crois, on a avancé en ce sens. Il y avait beaucoup de, en interne, pas mal de résistance, mais on a pu avancer. J'ai vu, j'avais sûrement sous-estimé que le parti revenait à ses vieux démons, que ce soit idéologiquement, avec des personnalités plus radicales qui faisaient leur retour, ou bien l'absence totale à certains moments de professionnalisme, ce qui s'est payé le soir du débat de second tour de Marine Le Pen, et par la suite l'abandon de la défense de la souveraineté nationale et les compromissions avec l'Union européenne qui pour moi ne sont pas possibles. Donc pour toutes ces raisons, moi je regrette rien. J'ai rencontré des électeurs et des adhérents qui étaient formidables, mais je pense que le patriotisme français doit sortir du cul-de-sac dans lequel il est, et c'est pour ça qu'on a créé un jeune mouvement politique qui s'appelle Les Patriotes, qui se développe très bien. On a déjà beaucoup d'adhérents et qui veut vraiment dépoussiérer, moderniser et rendre possible la victoire du patriotisme en France.
C'est véritablement un changement de ligne qui vous a poussé à quitter le FN, pas une altération des relations avec Marine Le Pen?
Non, ça n'est pas une question personnelle, mais c'est vraiment deux choses. Oui, un changement de ligne complet, puisque le Front est revenu, le Front National est revenu un peu à ses vieux démons, comme je le disais, c'est-à-dire l'obsession de l'immigration, dont je dis que c'est une question importante. Je n'ai pas changé de conviction, je pense qu'il y a un énorme problème avec l'immigration massive, mais on ne peut pas parler que de ça. Et on voit bien que le Front National quasiment ne parle plus que de ça. Et puis, ça s'est vu dans le débat, ça s'est vu par la suite, où ça se voyait déjà un peu avant, il y a un problème. Ce parti a plus de 45 ans, il a un fonctionnement classique. À un moment, j'ai cru qu'on pouvait le changer, et en fait, non, le poids du passé qui est revenu en force. Or, on ne gagne pas une élection avec un fonctionnement clanique. C'est impossible. Moi, je veux un patriotisme rassembleur et moderne. Et je suis même certain qu'avec les patriotes, on est en train de le bâtir.
Avant d'aborder justement les patriotes, une petite question très simple. Vous avez affirmé continuer à garder des contacts avec d'anciens responsables FN. À Lyon, le parti est dirigé par Christophe Boudot. Êtes-vous toujours en contact avec lui?
Non, moi j'ai rien contre Christophe Boudot, mais on n'était pas particulièrement très proches sans être ennemis, loin de là. Donc j'ai pas de problème particulier, mais c'était pas une des personnes avec qui j'étais le plus proche au Front National. Non, je veux dire, avec les cadres dirigeants, je n'ai plus de contact avec, en vérité. Quand je parle de contact, bah, c'est naturel, ce sont des amis qu'on se fait dans le milieu militant et parmi les électeurs, et dont beaucoup d'ailleurs ont quitté depuis le Front National. C'est souvent des gens qui étaient arrivés assez récemment, qui comme moi étaient venus sur la dédiabolisation, sur une ouverture sociale, et qui sont repartis après la nouvelle fermeture du Front National.
Aujourd'hui, vous êtes à la tête des Patriotes, une association, un parti politique qui a pour ambition de donner le meilleur pour la France. Quelles sont les grandes lignes de votre mouvement, Florian Philippot, si vous deviez les définir?
Bien, notre mouvement a publié sa charte le 7 novembre, elle est en ligne sur le site des Patriotes, j'invite chacun à aller la voir. Nous sommes un mouvement qui, d'abord sur le fonctionnement, se veut beaucoup plus moderne et démocratique. Je donne des exemples très concrets, parce que je suis pas de le dire, il faut le démontrer. Nous avons un fonctionnement qui permet la double ou la triple appartenance. Chez nous, on peut être au Patriote et dans un autre parti politique ou un syndicat, et c'est pour nous une richesse, c'est pas du tout un problème. Et nous avons créé une agora sur notre site internet qui est ouverte à tous les adhérents librement. Les gens viennent discuter de sujets de fond, et je peux vous dire que c'est très actif et très très intéressant, et on s'en sert pour élaborer notre propre projet. Nous avons déjà publié un premier cahier de l'Agora sur la cybersécurité, et on s'est beaucoup servi des contributions. Et puis, on essaie d'avoir un fonctionnement plus participatif, démocratique, avec des référents dans les départements. On estime que tout ne doit pas être pyramidal dans un parti politique. C'est un modèle qui est dépassé et qu'il faut s'inspirer beaucoup de ce que les gens vivent concrètement dans leur département, dans leur commune, sur le terrain. Pour le reste, notre projet, il est résolument tourné vers la France, vers le patriotisme, l'amour de la France. C'est un patriotisme généreux, un patriotisme moderne, rassembleur, où nous avons quelques points clés. On veut être très sincère. Pour nous, le Frexit est indispensable. On ne peut rien faire si nous ne sommes pas un pays indépendant qui coopérera amicalement, fructueusement avec les autres nations d'Europe et du monde, bien sûr, mais qui ne dépendent pas de technocrates à Bruxelles ou du bon vouloir de Madame Merkel. Donc il faut clairement sortir de l'Union européenne, on le dit clairement, on n'est pas là à essayer de faire penser comme les autres partis politiques soi-disant eurosceptiques et qui veulent soi-disant réformer de l'intérieur l'Union européenne, ce qui est promis depuis 40 ans aux Français, ce qui est impossible à faire. Et pour le reste, nous avons un projet très patriotique et qui défend un modèle social juste, efficace, qui se bat pour les petits salaires, les petites retraites, qui se bat pour les services publics, notamment dans la ruralité, pour nous c'est très important, qui se bat pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, c'est ce qu'ils demandent sereinement, et pour qu'on puisse défendre aussi l'ordre républicain, que ce soit pas la pagaille, que ce soit pas le communautarisme qui l'emporte, ou la violence qui l'emporte, comme on l'a vu récemment à Champigny avec ses violences contre des policiers. Si vous voulez, notre modèle il est tourné vers les problématiques du futur, l'écologie, produire sur place, consommer sur place au maximum et refuser les grands traités de libre-échange qui polluent la planète. Essayer d'aller vers l'innovation dans ce domaine-là. Voilà, il y a beaucoup de choses. La santé pour tous. On veut par exemple obliger les médecins libéraux à exercer au moins 5 ans dans un désert médical. Parce qu'on estime que il faut prendre des mesures maintenant assez énergiques, et parce qu'il n'est pas normal que certains de nos compatriotes doivent attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste de santé. C'est une inégalité qui n'est pas acceptable.
Florian Philippot, afin d'être clair avec nos auditeurs, quels sont les 3 principaux points qui vous différencient de Marine Le Pen, dont vous avez largement inspiré la ligne, et de Laurent Wauquiez, qui a adopté la ligne d'une droite dure?
D'abord, nous sommes une jeune formation politique et non pas de vieux partis comme les deux que vous citez, Républicains, c'est-à-dire anciennement UMP, etc., et le Front National. Et donc, nous sommes beaucoup plus connectés à la société française contemporaine. Deuxièmement, nous sommes très clairement pour l'indépendance nationale, pour le Frexit, quand les deux partis que vous citez maintenant ont quasiment le même programme sur l'Union européenne, c'est-à-dire une réforme de l'intérieur qui reste floue, qui reste vague, et qui surtout est un mensonge, qui est impossible à faire. Et troisièmement, j'ai envie de dire, on a une sensibilité sociale. Les deux partis que vous citez veulent réduire l'ISF. Nous, on veut le rétablir. Et en même temps, on veut annuler la hausse de la CSG. Vous voyez, on veut se battre pour 200 euros de plus sur les petites retraites. On veut se battre pour une augmentation en 5 ans de 15% du SMIC. Et tout cela aille au système productif français grâce au patriotisme économique. Donc on a vraiment une vision, je crois, plus ouverte, plus sociale que les deux partis que vous citez.
Le Front National n'est-il pas un aller sans retour dans le sens où vous n'allez jamais pouvoir réellement vous en détacher?
Ah si, vous savez, moi les gens savaient très bien, ils m'ont toujours un peu différencié de l'histoire du Front National parce que je suis pas venu pour l'histoire, j'ai jamais adhéré sous Jean-Marie Le Pen et parce que chacun voyait bien que j'étais venu avec mon parcours un peu différent, je viens du chevènementisme à la base, du gaullisme, et que j'étais là pour moderniser les choses, dépoussiérer, et que j'ai pris mes responsabilités. Quand j'ai vu que c'était impossible, je suis parti. Voilà. Et donc ça, je crois que les gens me le mettent à mon crédit. Mais maintenant, j'assume mes différences politiques. Je suis pas là pour cracher dans la soupe, hein, pas du tout. Moi, je suis là pour dire le patriotisme français mérite de gagner. Et or, on sait qu'il ne gagnera pas avec le Front National, ni avec d'ailleurs la France Insoumise ou d'autres formations. Et il faut faire tout à fait autrement. Et de ce point de vue-là, je suis très très optimiste.
Alors, place à la ruralité, Florian Philippot, si vous le voulez bien. Elle est souvent considérée comme la 5e roue du carrosse des politiques publiques. À l'heure actuelle, quel diagnostic portez-vous sur la situation des territoires ruraux, pilier d'un vote assez patriotique?
Je suis absolument dans l'idée que on doit mettre la ruralité au cœur de nos politiques publiques. Je l'ai toujours pensé, toujours dit. Vous savez, moi, je viens d'une famille où j'ai beaucoup été dans l'Aisne, près de Laon, parce que ma grand-mère était de là-bas, j'ai de la famille là-bas, et je vois ce que c'est que vivre aujourd'hui dans un village qui compte 200 habitants, 150 habitants, et où il n'y a plus un commerce, où il n'y a plus un service public, où il faut prendre sa voiture et faire 20 km, 25 km pour espérer trouver quelque chose simplement pour vivre normalement. C'est pas acceptable. Notre pays est suffisamment riche, l'État est suffisamment là et puissant pour assurer un meilleur aménagement du territoire. Donc nous, on veut une grande politique aux patriotes d'aménagement harmonieux du territoire, en remettant du service public. Alors, c'est pas du service public des années 50, c'est du service public du 21e siècle. Donc, on va utiliser aussi Internet, on va utiliser tout ce qu'il faut, mais il faut une présence humaine, il faut une présence physique. Et ça veut dire concrètement demander à la SNCF d'arrêter de fermer des gares. Ça veut dire à la Poste d'arrêter de fermer des bureaux partout. Ça veut dire aux commissariats, aux gendarmeries de considérer que l'insécurité qui se développe aussi dans la ruralité mérite d'être traitée par une présence physique. Ça veut dire qu'on doit arrêter de faire disparaître le réseau des sous-préfectures. Mais des choses très concrètes. Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent? Non. Non, parce que d'abord, ce sont pas des coûts énormes, mais ensuite, parce qu'on oublie toujours quelque chose dans l'équation budgétaire. C'est qu'on nous dit, on va économiser, par exemple, sur 2 postes de gendarmes. Alors, très bien. Ou alors, on ferme l'hôpital, bon. Ou le collège. Ça fait une petite économie de court terme. Oui, mais ensuite, quand vous avez moins de gendarmes, quand vous avez moins de santé, eh bien, ça se paye, parce que vous avez d'un coup une délinquance qui flambe, vous avez d'un coup des problèmes de santé avec des accidents de santé, et ça coûte très cher à la sécurité sociale, et ça coûte finalement plus cher. Et moi, je pense que faut avoir ce raisonnement global, maintenir, redynamiser les campagnes, eh bien, ça coûte au final moins cher. Et ça permettra d'ailleurs le retour de certains commerces de proximité, à condition évidemment qu'on leur donne un petit avantage par rapport à la grande distribution, parce que sinon, ils ne feront jamais le poids.
L'extrême droite fait de très bons scores dans les territoires ruraux grâce au thème portant sur l'immigration, l'insécurité et l'Europe. C'est justement dans ces territoires que la délinquance est faible, que l'immigration est limitée et que nombre d'agriculteurs bénéficient des aides européennes. Comment expliquez-vous cette dichotomie ?
Moi, si vous voulez, aux patriotes, on explique les choses très clairement. Si beaucoup dans la ruralité aujourd'hui se tournent vers une solution patriote, et je pense pas que ce soit maintenant le Front National qui en bénéficie. Moi, j'avais déjà constaté une baisse dès le premier tour de l'élection présidentielle dans les territoires ruraux, parce que je pense qu'il y avait un Front National qui parlait de moins en moins justement de ces problématiques, et je l'avais signalé en interne, je n'avais pas été écouté, mais aux patriotes, on en parle beaucoup. Vous voyez, justement, vous dites qu'il y a moins d'insécurité, moins d'immigration massive, que moins de communautarisme que dans certaines zones urbaines, vous avez raison. Mais justement, les gens devancent les problèmes, et je pense qu'ils ne veulent pas être confrontés aux mêmes problèmes que certaines grandes villes. Ils ont bien vu les évolutions ou dans certaines banlieues et ils veulent les éviter. Par ailleurs, on sait qu'il y a quand même aussi une explosion d'une certaine forme de délinquance comme des cambriolages ou des vols aussi sur les matériels agricoles dans les campagnes et qu'il faut en tenir compte. C'est ce que je vous disais sur la présence de l'État, du service public et le rétablissement de l'ordre républicain. Pour le reste, sur l'agriculture, permettez-moi de rappeler clairement les choses. Nous sommes, nous, aux patriotes, favorables à ce que les agriculteurs perçoivent encore leurs subventions. Simplement, pas par la PAC, parce que là, il y a un mensonge. En fait, la PAC, c'est une petite partie de l'argent que nous donnons à l'Union européenne qui nous revient, et qui revient en l'occurrence aux agriculteurs. Il faut savoir que chaque année, la France donne 20 milliards d'euros à l'Union européenne, et qu'en retour, elle en récupère 11. Et parmi ces 11, il y en a 9 pour la PAC, 9 milliards. Vous voyez, en fait, quand on fait la différence entre ce qu'on donne à l'Union européenne et ce qu'on en reçoit, y compris la PAC, on est largement perdant. Donc si on faisait sans l'Union européenne, on pourrait donner l'argent directement aux agriculteurs, au moins autant. Peut-être même plus, puisqu'on ferait des économies. On verrait pas l'argent disparaître vers l'Europe de l'Est ou vers d'autres dépenses qui ne nous concernent pas. Et ça, je crois que c'est très important que les agriculteurs le sachent. On pourrait le faire de manière plus équitable, d'ailleurs, dans la répartition, que ça n'existe aujourd'hui. Et puis moi, à terme, je pense que tous les agriculteurs veulent vivre de leur travail, avant plus que de vivre de subventions. Ça suppose des prix rémunérateurs, ça suppose de rééquilibrer, de réguler à nouveau les prix, de remettre des quotas quand c'est nécessaire, quand ils ont été supprimés notamment par l'Union européenne, et d'arrêter de les mettre en concurrence déloyale avec la terre entière, comme justement l'Union européenne le fait à travers les traités de libre-échange, par exemple avec le Canada, le CETA, ou avec l'Afrique du Nord, ou avec la Nouvelle-Zélande, ou d'autres pays.
Nous allons terminer par deux questions d'actualité si vous le voulez bien. Dans ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une loi luttant contre les fake news sur Internet. Vous avez dénoncé dans un communiqué de presse une atteinte à la liberté d'expression. En quoi Florian Philippot, supprimer des fausses informations sur Internet, est-ce une atteinte à la liberté d'expression ?
Parce que la question est très simple à comprendre, en période électorale encore plus. Qui va déterminer ce qu'est une fausse information ? Moi, je suis évidemment pour qu'il y ait une vérité dans l'information et qu'on fasse la chasse aux fausses informations, très bien. C'est d'ailleurs le rôle de la déontologie du journaliste. Normalement, c'est ce qu'il fait, il vérifie ses sources. Ensuite, il y a des chartes d'éthique qui existent déjà dans les réseaux sociaux. Et puis, c'est aussi le rôle d'éducation de chaque internaute. On peut se faire avoir une fois, ça peut arriver deux fois. Après, on peut avoir suffisamment de discernement pour être plus prudent par la suite. Très bien. Mais là, c'est autre chose. Qui va déterminer, surtout en période électorale, ce qu'est une fausse information ? Je vous donne un exemple très simple. Il y a quelques années, on considérait que faire un lien entre l'arrivée massive de migrants dans certaines zones et la flambée de la criminalité, c'était une fake news. Maintenant, la BBC le dit, les grands médias le disent, donc ça n'est plus une fake news. Vous voyez, est-ce que ça aurait été censuré à l'époque ? Qui va déterminer ce qui est une fausse information par l'électorat ? Le gouvernement ? On voit bien que c'est extrêmement dangereux et qu'on a le risque de l'arbitraire, le risque de la censure, le risque de la déformation de l'information au bénéfice du parti au pouvoir. Et c'est pour ça que cette loi, dans une démocratie, est très inquiétante et qu'elle n'existe pas d'ailleurs dans d'autres grandes démocraties. Vous savez, souvent le diable se cache dans les détails. On peut dire louable intention, mais attention aux modalités d'application qui peuvent être très dangereuses. Comment ça va se mettre en place ? Qu'est-ce qu'on va censurer sur Internet pendant les campagnes électorales ? Moi, je crois qu'on a besoin justement de ce débat sur Internet. Le débat dans les grands médias n'est pas suffisant, ou il est confisqué. D'ailleurs, les grands médias appartiennent à quelques milliardaires, ce qui peut poser un énorme problème déontologique. Là, au moins, sur Internet, c'est vrai qu'il y a du faux, il y a du vrai. mais au moins il y a un débat. Et je crois qu'on doit laisser ce débat aux citoyens et qu'on ne doit pas les priver de cela. Ce serait une vraie reculade de la démocratie. C'est pour ça que les Patriotes, nous avons lancé une pétition contre cette loi.
Les violences policières se retrouvent une nouvelle fois au cœur de l'actualité, comme dernièrement à Champigny. Le gouvernement a annoncé sa fermeté et sa détermination à lutter contre ce phénomène. Est-ce que vous diriez, comme Éric Ciotti, « touche pas à mon flic » ?
Oui, on peut le dire. Enfin, le problème d'Éric Ciotti, c'est que quand il était au pouvoir avec Nicolas Sarkozy, il a un peu touché à son flic parce qu'ils ont supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Donc, ils ont pas simplement touché, ils les ont dégagés. Et c'était une des raisons pour lesquelles il y a des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de monde et que les policiers s'en plaignent tous les jours sur le terrain, les gendarmes aussi d'ailleurs. Et là, on a vu par exemple qu'à Champigny, l'équipage était constitué de 3 policiers seulement. 3 policiers dont un conducteur. Vu les dizaines, peut-être les centaines d'individus déchaînés qu'il y avait en face, c'était tout à fait insuffisant. Donc il faut rétablir les effectifs, les moyens, il faut une application réelle des peines. Ça, c'est insupportable, c'est qu'en France, les délinquants ou les sauvages, comme on l'a vu là, savent qu'ils peuvent être condamnés, mais la peine a de fortes chances de ne pas être exécutée ou d'être mal exécutée. Bah, il faut qu'il y ait une certitude de la peine, parce que ça sera beaucoup plus dissuasif. Et puis, on constate que ces violences flambées de sauvagerie se produisent notamment dans certains ghettos communautaires, au détriment d'ailleurs de la majorité de la population qui y vit et qui n'a rien demandé à personne et qui est victime aussi des mêmes voyous. Et ces ghettos communautaires, il faut les casser, ce qui veut dire rebâtir la République partout là-bas, sur chaque mètre carré, rebâtir la loi, rebâtir la laïcité, rebâtir l'ordre républicain, y remettre de la présence de l'État et arrêter d'accumuler des vagues d'immigration massive dans les mêmes quartiers, parce que évidemment, ça se traduit par des ghettos, et les ghettos sont souvent synonymes de violence.
Quelles sont les prochaines étapes de votre mouvement ?
Alors nous avons notre grand événement fondateur à Arras le dimanche 18 février, et évidemment chacun est bienvenu, il faut se renseigner sur le site internet des Patriotes, il y a un coupon à nous renvoyer pour s'inscrire, et chacun est le bienvenu, vraiment, c'est un grand moment intéressant et en même temps très sympathique. Puis nous serons présents aux deux élections législatives partielles qui viennent dans le Val-d'Oise et dans le territoire de Belfort à la fin du mois, au début du mois de février, avec Sophie Nontel et Denise Cornet, nos deux candidates, et j'irai soutenir nos candidats, et puis on va continuer de se développer. Nous avons une année sans élection en 2018, en grande élection nationale en tout cas, et on va en profiter pour préparer les élections européennes de 2019.
Vous envisageriez d'être tête de liste aux européennes par exemple ?
Oui, bien sûr, les Patriotes seront présents aux élections européennes, c'est dans 18 mois, on a le temps d'en reparler, mais c'est vrai que c'est un grand rendez-vous pour l'indépendance de la France face à la dictature européenne et face aux méfaits d'une politique qui accroît l'austérité, qui fait disparaître les services publics, notamment dans la ruralité, et qui accroît l'immigration massive.
Merci à vous Florian Philippot d'avoir été avec nous.
Je vous remercie, merci beaucoup.
C'est la fin de ce nouveau numéro de l'interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver l'entretien de Florian Philippot sur notre site internet www.rvradio.fr. Merci de votre fidélité et à bientôt.